RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel.
Julien Coquel-Roem.
Et à la une, ce nouvel échange dans le cadre de la trêve Israël-Hamas. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Julien Coquel-Roem, bonjour à tous. Le Hamas a restitué les corps de 4 otages israéliens morts à Gaza. Israël a libéré de son côté un peu plus de 600 prisonniers palestiniens. On est à Tel Aviv en début de journal. Donald Trump confirme des droits de douane pour les produits européens et ils seront taxés à 25%. Les Européens ont promis de répondre au président américain. Ils continuent aussi de plaider pour l'Ukraine alors que Volodymyr Zelensky est attendu demain à Washington. La brouille diplomatique entre la France et l'Algérie pourrait un peu plus se creuser. Paris demande à Alger de réexaminer les accords de 1968. On y revient dans ce journal et dans une vingtaine de minutes avec Rachid Temal, notre grand invité international. La Commission européenne revient sur des normes environnementales. Elle propose une loi qui serait moins contraignante pour les entreprises et cela inquiète les ONG. Et puis en fin de journal, un aperçu du film Yokai, le monde des esprits, film dans lequel Catherine Deneuve incarne un fantôme, un voyage métaphysique et musical.
Après d'intenses négociations, le Hamas et Israël ont finalement procédé dans la nuit à un nouvel échange.
Le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza a restitué les corps de 4 otages israéliens morts en captivité dans l'enclave. De son côté, Israël a libéré un peu plus tard un peu plus de 600 prisonniers palestiniens. Ils ont été accueillis dans la nuit par des scènes de liesse à Ramallah. Oriane Verdier, vous êtes notre envoyée spéciale à Tel Aviv. Cet échange, Oriane, s'est fait de manière plus sobre que les précédents.
Oui, ces prisonniers palestiniens devaient en fait être libérés samedi dernier en échange de la libération de 6 otages par le Hamas. Mais Israël avait annulé au dernier moment, dénonçant des cérémonies humiliantes organisées par le Hamas pour la remise d'otages. Cette fois-ci, l'échange s'est donc fait cette nuit dans la discrétion et donc sans cérémonie. Parmi les 4 otages décédés se trouve le franco-israélien Ohad Yahalomi. Les corps sont actuellement à l'Institut médico-légal de Tel Aviv afin de pouvoir notamment confirmer leur identité. Selon le média Al Jazeera, les autorités israéliennes auraient suspendu la libération de 24 prisonniers mineurs palestiniens en attendant de confirmer que les dépouilles sont bien celles des otages annoncés par le Hamas. 625 prisonniers palestiniens ont tout de même été libérés, vous le disiez, dans la nuit à Gaza, en Cisjordanie occupée et en Égypte. Des scènes de joie des familles qui les attendaient, mais aussi la découverte une nouvelle fois de corps émaciés portant les traces de ce qui pourrait être des marques de torture.
Et cet échange était donc le dernier, Oriane, de la première phase de la trêve qui doit s'achever dans 2 jours.
Elle aura permis au final le retour en Israël de 33 otages, dont 8 décédés. Environ 1700 Palestiniens ont été libérés. La question maintenant se porte sur la tenue de négociations pour la deuxième phase de la trêve qui doit amener à d'autres libérations, mais aussi à une solution pour mettre fin définitivement à la guerre à Gaza. Israël a laissé entendre sa volonté de prolonger la première phase afin de permettre la libération de 63 otages restants sans discussion sur le fond de la guerre à Gaza. Mais après l'échange de cette nuit, le Hamas a estimé qu'Israël n'avait plus d'autre choix que d'entamer les négociations pour la phase 2 du cessez-le-feu. Cette première phase, s'est également accompagnée d'une offensive d'envergure en Cisjordanie occupée, avec le déplacement de près de 40 000 Palestiniens et des dizaines d'arrestations.
Oriane Verdier en direct de Tel Aviv avec les moyens techniques de Julien Boileau. On l'évoquait donc, la première phase de la trêve entre Israël et le Hamas est censée prendre fin samedi dans 2 jours. Cette semaine, l'émissaire américain de Donald Trump, Steve Witkoff, lui, se disait optimiste en vue d'une reprise prochaine des pourparlers.
Donald Trump qui organisait son premier conseil des ministres.
Il a vanté le bilan de ses premières semaines à la Maison-Blanche et confirme des droits de douane sur les produits européens qui seront bientôt taxés à hauteur de 25%. Le président américain s'en est expliqué. L'Union européenne, dit-il, a été conçue pour entuber les États-Unis et il pense, avec ses taxes, réduire le déficit commercial américain vis-à-vis de l'Europe. Et les 27, Pierre Benazet, ont aussitôt répondu.
L'Europe réagira immédiatement et avec fermeté, assure le commissaire européen chargé du marché unique. Le porte-parole du commissaire chargé du commerce met les points sur les i. L'UE a toujours été une aubaine pour les exportateurs américains et très profitable pour les investisseurs américains. Elle est prête au dialogue, à l'ouverture et à la réciprocité, mais seulement si on suit les règles du jeu. L'Europe était de toute façon déjà dans le collimateur, car les droits de douane imposés par Trump en 2018 ont été suspendus par Biden jusqu'au 31 mars de cette année. Les Européens savaient qu'ils étaient étaient sur la sellette et ils ont déjà prévu une liste de produits à taxer. Si ces droits de douane reprennent, moto Harley-Davidson, Bourbon, Erel ou barre d'acier inoxydable par exemple. En 2018, l'UE avait taxé 182 produits, à la fois par des mesures miroirs ou de réciprocité, mais aussi de rétorsion, appelée par euphémisme « mesure de rééquilibrage ». La rétorsion était évidente puisque l'UE ciblait principalement des productions originaires de circonscriptions qui avaient voté pour Donald Trump ou qui votent traditionnellement pour le Parti républicain. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Et ces droits de douane pourraient avoir un fort impact, notamment sur le secteur de l'acier en Europe, secteur déjà bien morose. Aujourd'hui, une réunion de crise est organisée à Paris entre plusieurs ministres européens de l'industrie. Ils devraient demander à Bruxelles d'accélérer son soutien à l'industrie européenne.
Les Européens continuent aussi de plaider la cause de l'Ukraine auprès des États-Unis.
Les 27 se sont parlé en visioconférence hier pour adapter leurs réponses. Or, Union européenne, le Royaume-Uni poursuit aussi ses efforts. Starmer, le Premier ministre, se rend à Washington aujourd'hui, avant demain l'arrivée du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Il devrait signer à la Maison-Blanche un accord sur les minerais. Cet accord permettrait un accès des États-Unis aux ressources minières de l'Ukraine, sorte de compensation pour l'aide militaire dépensée par Washington. La guerre en Ukraine qui sera aussi au cœur des discussions aujourd'hui au Portugal, lors de la visite d'État du président français Emmanuel Macron à Lisbonne, Valérie Gasse.
L'Ukraine ne sera jamais loin dans l'esprit d'Emmanuel Macron durant sa visite d'État au Portugal. La veille de s'y rendre, le président de la République a encore participé à une réunion informelle des chefs d'État et de gouvernements européens en visioconférence pour évoquer le dossier ukrainien et rendre compte de ses entretiens en tête-à-tête avec Donald Trump à Washington, avant que le Premier ministre britannique fasse lui aussi le déplacement à la Maison-Blanche, car c'est ça l'urgence européenne, convaincre le président américain de ne pas s'entendre avec Vladimir Poutine sur le dos des Ukrainiens et des Européens. L'Élysée confirme d'ailleurs que la sécurité et la souveraineté de l'Europe seront au menu des discussions politiques avec le président et le premier ministre portugais. Emmanuel Macron veut profiter de toutes les occasions pour affirmer qu'il faut accélérer en matière de défense et d'autonomie stratégique. Le Portugal doit d'ailleurs signer une lettre d'intention pour l'acquisition de canons César français. De Washington à Lisbonne, puis ensuite à Londres ce week-end à l'invitation de Keir Starmer et à Bruxelles pour un sommet extraordinaire la semaine prochaine, Emmanuel Macron est mobilisé sur le dossier ukrainien. Valérie Gasse, Lisbonne, RFI.
Le président français occupé sur le dossier ukrainien pendant que son premier ministre doit gérer les tensions entre la France et l'Algérie.
Et il risque de creuser un peu plus cette brouille diplomatique. François Bayrou a annoncé hier soir que la France allait demander à l'Algérie de réexaminer des accords migratoires. Cela intervient quelques jours après l'attentat de Mulhouse perpétré par un Algérien sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. À plus de 10 reprises, l'Algérie avait refusé de reprendre ce ressortissant. La France remet donc en cause ces accords migratoires de 1968. Pierre Vermeren, historien spécialiste du Maghreb, revient sur le contenu de ce texte.
C'est le traité de 68 qui a été révisé 3 fois et qui concerne la circulation et l'installation et aussi le régime des visas des Algériens en France. Cette circulation bilatérale qui avait été prévue à Évian dans les 2 sens de circulation, si je puis dire, s'est resserrée à partir de 68 autour de la question de la migration vers la France et notamment de travailleurs. Alors évidemment, les choses ont changé depuis 73-14 quand l'Algérie a arrêté, a bloqué les migrations du travail et que la France, à la fin des années 70, a instauré le regroupement familial. Aujourd'hui, cette migration, elle concerne surtout le regroupement familial, les étudiants, plus que les travailleurs, mais elle permet aux Algériens d'échapper au régime général des migrations vers la France et de bénéficier encore d'un certain nombre de privilèges. Un seul exemple, le droit pour les Algériens, notamment les étudiants, de rester en France après leurs études en déclarant une activité commerciale, même si celle-ci n'est pas forcément avérée.
Et l'historien Pierre Vermeren avec Paul Lorgerie. De son côté, le Conseil de la Nation en Algérie, l'équivalent du Sénat, annonce la suspension de ses relations avec le Sénat français. Il entend protester ainsi contre la visite de Gérard Larcher, président du Sénat au Sahara occidental, territoire contesté de longue date où Paris a reconnu l'été dernier la souveraineté du Maroc.
Et on revient sur ces tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie avec notre grand invité international. Arnaud Pontus reçoit dans une dizaine de minutes à présent Rachid Temal, président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat. À la une également, en pleine COP16 sur la biodiversité à Rome, l'Union européenne qui freine sa transition transition écologique.
Avec la loi dite Omnibus pour simplifier le pacte vert européen. Si elle est adoptée, cette loi sera moins contraignante pour les entreprises qui s'en réjouissent forcément, mais pour les défenseurs de l'environnement, c'est bien sûr un autre discours, Juliette Pietraszewski.
Dans sa volonté de simplification, la Commission européenne veut notamment réduire le périmètre de la taxonomie verte, une classification des activités économiques ayant un impact favorable sur l'environnement. Dans le viseur de Bruxelles également, le devoir de vigilance des entreprises qui les oblige à vérifier les conditions de travail et les impacts environnementaux de leurs sous-traitants. Faustine Basse-Desfossés, du Bureau européen de l'environnement.
C'est potentiellement une première étape dans une vague de déréglementation extrêmement dommageable pour la société et la planète. Les réglementations environnementales, sanitaires et sociales, d'ailleurs, elles sont essentielles pour protéger la santé des citoyens, l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique.
Du côté des organisations patronales en France, cette simplification était attendue par la majeure partie des entreprises. Fabrice Lesaché, vice-président du MEDEF.
C'est vrai que c'est difficile pour nos entreprises de faire face à tout ça en même temps.
On demandait un retrait du texte. Donc les modifications qui sont de nature à l'améliorer nous semblent insuffisantes. Il y a un signal, on peut pas dire qu'il y en a pas, mais on aurait aimé un signal beaucoup plus puissant à un moment qui est crucial pour l'Europe.
Pour l'heure, les simplifications doivent être validées par le Parlement et le Conseil européen, où les débats s'annoncent tendus.
Juliette Pietraszewski.
On termine, Marion, par un rôle que Catherine Deneuve n'avait jamais joué.
L'actrice française incarne un fantôme, celui d'une chanteuse morte au Japon qui erre avec son plus grand fan japonais. Ce film vient de sortir en France et s'appelle Yokai, le monde des esprits. Il est signé du Singapourien Eriko. Un aperçu avec Isabelle Chenu.
Nous sommes tellement heureux de vous revoir sur scène. Si vous saviez ce que votre musique représente par tant de personnes ici au Japon.
Peu de réalisateurs ont osé faire mourir à l'écran une des plus grandes stars françaises du cinéma, Catherine Deneuve. Le Singapourien Eric Koh s'y est risqué dans un film hybride au charme mélancolique. À 81 ans, la comédienne à l'immense carrière interprète une ancienne gloire de la chanson française venue faire une tournée d'adieu au Japon. Cette femme seule qui a enterré trop d'êtres chers meurt après avoir ingurgité une bouteille de saké de trop, tête la première sur le comptoir d'un bar. Devenu un spectre, un yokai selon la mythologie japonaise, elle erre dans Tokyo, invisible aux yeux des vivants, en compagnie d'un vieil homme mort quelques jours plus tôt et qui se trouve être un de ses plus grands fans. Le film suit les pérégrinations de ces deux fantômes, touchants et parfois drôles, délestés du poids de leur existence. Mais le jeu et l'interaction des acteurs sont limités, chacun s'exprimant dans sa langue de façon un peu mécanique.
Catherine Deneuve en fantôme, donc dans le film Yokai, le monde des esprits en ce moment dans les salles en France.
Merci Marion Casanova, à tout à l'heure. RFI Matin, la suite, un nouveau journal dans 17 minutes, tout juste un point sur l'info africaine. Et d'ici là, les tensions entre la France et l'Algérie à la une. Avec notre grand invité international, Arnaud Pontus reçoit dans quelques minutes le président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat, le sénateur Rachid Temal. Mais tout de suite les sports. Avec vous Florence Valmet et du football, la Coupe de France, pas de miracle pour le petit pousset Saint-Brieuc tombé en quart face à l'ogre parisien.
Le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée du stade briochin, club de National 2 équivalent de la 4ème division. Victoire nette de 7 buts à 0. Les Bretons n'ont pas fait le poids face au large leader de la Ligue 1. Le PSG poursuit donc tranquillement sa quête d'un triplé championnat, Coupe, Ligue des Champions. Le tout dans un état d'esprit irréprochable comme le confie le défenseur Lucas Hernandez, forcément satisfait du résultat et de la manière.
Un gros match, un match pour les spectateurs très intéressant à regarder, un vrai spectacle de jeu. Et on est vraiment bien, on est dans un très bon moment, on est tous motivés, on est tous concernés, que ce soit ceux qui jouent plus, ceux qui jouent moins, tout le monde qui rentre sur le terrain, ça se voit, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, tous les joueurs donnent tout. L'entraînement, vous ne voyez pas, mais l'entraînement, c'est pareil. Tout le monde est concerné, tout le monde donne tout, et je pense qu'on est dans le bon chemin pour faire des grandes choses.
Lucas Hernandez au micro de nos confrères de BIN.
Et puis, décidément, on n'arrête plus Dunkerque. En Coupe de France, déjà tombeur de Lille en 8e de finale, l'autre club nordiste 3e de Ligue 2 élimine encore un club de Ligue 1, Brest, qui plus est chez lui.
Dunkerque qui accède au dernier carré de la compétition pour la première fois depuis 96 ans. Un succès 3-2 après avoir pourtant été mené 2-0. Une remontada effectuée notamment grâce à Opa Sanganté. Le doublé de l'international bissau-guinéen, entré à la 64e minute, a définitivement fait pencher la balance en faveur de son équipe. Pour sa plus grande joie, on l'écoute au micro de beIN Sport.
J'ai même pas de mots. C'est la première fois que je disputais un quart de finale. Là, c'est moi qui permet à l'équipe de revenir à 2-2 et qui donne le 3-2. C'est exceptionnel. J'ai pas de mots. En tout cas, j'ai une petite pensée pour un ami que j'ai perdu il y a quelques jours. Donc, je lui dédie mes deux buts. J'ai jamais mis de doublé dans ma carrière. Ce soir, je mets un doublé. C'est exceptionnel. Je pense que je vais pas oublier ce match. Et puis, en plus, j'ai mon ami Mama Baldé. Je pense qu'il est frustré, mais je vais pouvoir le chambrer parce que je lui disais que je vais marquer aujourd'hui et au final, j'ai marqué.
Et Mama Baldé, l'attaquant de Brest et compatriote d'Opa Sanganté, connaîtra les affiches des demi-finales ce jeudi. Le tirage au sort a lieu en fin de journée.
On part en Espagne avec la Coupe du Roi. Le Real Madrid s'est imposé 1-0 face à la Real Sociedad en demi-finale aller.
Une petite victoire signée Hendrik. La Coupe du Roi réussit plutôt bien à l'attaquant de 18 ans puisque c'est lui déjà qui avait été décisif lors des deux tours précédents. Les Madrilènes prennent un léger avantage sur leur adversaire avant la demi-finale retour qui aura lieu le 1er avril au Santiago Bernabéu.
Enfin, en première ligue, le championnat anglais Arsenal n'y arrive plus.
Battu ce week-end 1-0 par West Ham, équipe de bas de tableau, les Gunners obtiennent un nul, 0 partout hier soir face à leur poursuivant de Nottingham Forest. Ils cumulent dorénavant 13 points de retard sur le leader Liverpool, vainqueur hier de Newcastle 2-0.
Merci Florence Valmet, à tout à l'heure. Et bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Julien.
Dans Aujourd'hui l'économie, on s'intéresse ce matin à cette nouvelle idée de Donald Trump alors que le président américain s'est lancé dans une vaste campagne anti-immigration dès son retour au pouvoir. Il a annoncé dans le même temps vouloir créer un visa un peu spécial, un visa d'or. Objectif de cette manœuvre, remplacer le visa qui permet aux investisseurs étrangers d'obtenir une carte verte, à savoir un permis de séjour légal aux États-Unis. Et tout cela, Stéphane, moyennant finance.
Oui, comptez 5 millions de dollars pour obtenir cette fameuse carte verte américaine qui permet de résider aux États-Unis, carte qui permet également aux citoyens non américains de s'installer et de travailler légalement dans le pays sans avoir besoin de visa. Aujourd'hui, pour l'obtenir, on pouvait investir dans des entreprises américaines, ce qui déclenche mécaniquement le processus d'attribution, le locataire de la Maison-Blanche qui souhaite tout simplement la monnayer.
Alors pourquoi Donald Trump fait-il ce choix ?
Eh bien, le président américain et son administration considèrent que cette règle fait l'objet de nombreuses fraudes, qu'aujourd'hui, en investissant au moins 800 000 dollars, il est possible d'avoir la possibilité de résider aux États-Unis et que donc, selon le ministre américain du Commerce, ce dispositif est sujet à trop de fraudes. Et représente un moyen d'obtenir la carte verte à un bas coût. Résultat, en bonhomme d'affaires, Donald Trump change la règle afin de mettre en place en quelque sorte un prix plancher pour obtenir un permis permanent de résidence et donc faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État en attirant les étrangers fortunés dans le pays. Il l'explique lui-même, je cite, « Des gens riches vont venir en achetant cette carte, ils seront riches, ils vont réussir, ils vont dépenser beaucoup d'argent ». Enfin, ils paieront beaucoup d'impôts et ils emploieront beaucoup de gens. Fin de citation.
Car Donald Trump a besoin de personnes riches pour faire tourner l'économie américaine.
Exactement. D'ailleurs, l'agence Moody's vient de publier une étude qui le démontre. Les 10% d'Américains les plus riches représentent aujourd'hui la moitié de toutes les dépenses du pays. Vous l'aurez donc compris, cette catégorie de population est essentielle à l'économie américaine et ça, le président Trump compte sur eux.
Et c'est viable comme système, Stéphane ?
Alors, oui et non. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Dans un rapport réalisé en 2023, l'Organisation de coopération et développement économique estime que oui, ces riches étrangers contribuent à stimuler la croissance grâce aux investissements directs étrangers. Et qu'il y a tout de même des limites, car s'il ne faut que 5 millions de dollars pour résider sur le sol américain, cela peut attirer des criminels ou d'autres qui sont persona non grata ailleurs ou qui cherchent à échapper à la justice ou même à blanchir de l'argent.
Cela car des critiques se font déjà entendre concernant la venue possible d'oligarques russes.
Oui, mais Donald Trump balaie tout cela d'un revers de main. Il considère qu'ils pourront profiter de ce système et d'ajouter qu'il connaît des oligarques russes qui sont des gens très sympathique, fin de citation, car on le rappelle, ces oligarques ont pour la grande majorité été sanctionnés par l'administration américaine depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a de ça 3 ans. En tout cas, Julien, c'est loin d'être anecdotique, Donald Trump ne s'en cache d'ailleurs pas, il est proche des fortunés de la planète, et réciproquement, on parle même de broligarques, des hommes milliardaires qui s'immiscent petit à petit dans les sphères politiques et institutionnelles, qu'ils viennent des États-Unis ou d'ailleurs.
aujourd'hui l'économie. Merci Stéphane Genest. 7h20 à Paris et Alger, notre grand invité international sur RFI. Avec vous Arnaud Pontus, vous recevez ce matin le président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat français.
Bonjour Rachid Temal.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Entre la France et l'Algérie, la crise est ouverte. Après l'attentat de Mulhouse, après les affaires d'influenceurs algériens, après l'arrestation de Boualem Sansal, la France menace. On va y venir en détail dans un instant. Mais d'abord, cette annonce qui est tombée hier soir, le Sénat algérien suspend ses relations avec le Sénat français. Il proteste ainsi contre la visite cette semaine du président du Sénat français au Maroc et au Sahara occidental. Rachid Temal, est-ce que vous regrettez cette décision algérienne?
Je regrette effectivement la volonté du Sénat algérien, du Conseil de la Nation, puisque c'est son nom, d'interrompre les relations. Et moi, je leur dis que la diplomatie parlementaire est essentielle. Et donc, je crois qu'il serait intéressant de reprendre les échanges, en tout cas, échanger, parler, c'est déjà une bonne chose dans la situation actuelle. En rappelant qu'effectivement, tout le monde ne partage pas la position au Sénat, elle n'est pas unanime, j'ai envie de dire, concernant la question du Sahara occidental.
Est-ce que le président du Sénat, Gérard Larcher, a fait une erreur en se rendant au Sahara occidental?
Permettez-moi de ne pas répondre à cette question, parce que je considère que c'est un débat au sein du Sénat français. Moi, ce que je note, c'est que le Sénat ne se résume pas à Gérard Larcher, Gérard Larcher ne résume pas le Sénat. Et j'en appelle.
Mais le fait de ne pas répondre, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord?
Non, ça veut dire que je ne souhaite pas y répondre, tout simplement. Bon. Ne cherchez pas. J'assure, je suis connu pour dire ce que je pense. Donc moi, ce que je dis simplement, c'est que je pense qu'il faut, j'en appelle à la reprise, en tout cas des échanges du canal diplomatique, parce que je crois
un certain apaisement
parlementaire.
Oui, un certain apaisement. Rachid Temal, cette annonce, elle intervient, on le sait, dans un climat de tension très forte entre Paris et Alger. Hier, la France a menacé de remettre en cause les accords de 1968 avec l'Algérie. D'un mot pour que nos auditeurs l'aient en tête, ces accords, ils facilitent les conditions de séjour, de circulation et d'emploi des Algériens en France. Est-ce que ce choix, le choix de cette méthode, de cette menace, est bon?
Alors, pour être plus totalement précis par rapport, mettez-moi pour vos auditeurs, oui. Il faut rappeler que l'accord de 68 vient après celui de 62, les accords d'Évian, qui ont été validés par
référendum. C'est sa prolongation, oui.
Non, c'est en 68, la volonté est de réduire les conditions d'accès au territoire français et de séjour des Algériens. C'est ça l'histoire, je le redis parce que on a l'impression que c'est open bar. Ce n'est pas vrai.
Oui, oui.
Ce n'est pas vrai.
Donc, est-ce que c'est la bonne méthode,
sur la méthode, de vouloir revenir?
Est-ce que menacer de revenir sur ces accords, puisque c'est ce qui a été dit hier?
Moi, je pense qu'entre deux États, déjà, la conférence de presse m'a semblé à la fois lunaire, tant sur le fond que sur la forme, franchement. Mais, plus sérieusement, je ne crois pas qu'on puisse résumer les relations entre deux États souverains, notamment l'Algérie et la France, la France et l'Algérie, par juste la question migratoire qui existe. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, nos entreprises françaises en vendent chaque année pour près de 5 milliards d'euros de marchandises à l'Algérie. Je rappelle que nous avons des centaines d'entreprises françaises installées en Algérie qui ont des salariés, qui font du chiffre d'affaires et qui vendent. Je pourrais comme ça ajouter plein d'autres domaines. Et je crois que la façon dont opère le gouvernement actuel en France n'est pas la bonne méthode. Je ne crois pas que ce déballage permanent dans une partie de la classe politique et sur certains médias d'un discours anti-Algérie fasse progresser. Moi, je crois que la France est un grand pays qui peut être ami avec beaucoup de pays, l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, pour prendre que le Maghreb, et qui peut avoir des relations d'État souverain à État souverain en se disant les choses.
Quand le Premier ministre assure que son idée n'est pas du tout l'escalade, c'est malgré tout ce que vous craignez derrière ce choix?
C'est-à-dire que la façon de... Il y a le Premier ministre, mais il y a aussi ce qui est dit depuis des semaines et des semaines.
Parce le que ministre de l'Intérieur qui parle de rapport de force, notamment.
Oui, mais je crois pas que ce soit la bonne méthode entre deux États.
Oui, mais c'est ce que je voulais vous demander.
Moi, je conteste la méthode. On peut avoir des objectifs communs, je veux dire. Que la France, en tant que pays, que nous puissions décider de qui rentre sur notre territoire et qui en est exclu... Je participe totalement de cette idée-là, je la partage, je la soutiens, ce qui me semble être le béaba. Voilà. Mais le béaba aussi dans la diplomatie, c'est de savoir se dire des choses sans forcément en faire toute la journée des tonnes et des tonnes. Et je crois que quand on fait que...
Montrer les muscles ne sert à rien, c'est ce que vous dites.
Quand la politique intérieure prend en otage les relations internationales, je crois que c'est toujours dangereux, que ce soit en France ou ailleurs.
Bon. Rachid Temal, cette menace du gouvernement français, elle répond tout de même à une situation, la difficulté de renvoyer en Algérie les ressortissants sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal. Est-ce que ça veut dire qu'il fallait laisser faire ?
Attendez. Si on dit les choses tranquillement, depuis la désindépendance, il y a des hauts débats dans les relations. Moi, j'ai noté qu'il y avait, puisque vous oubliez de rappeler, le voyage du président de la République français en 2022 avec un accord, qui me paraissait important. Je pense que c'est dans ce cas-là qu'il faut rester et essayer de travailler et faire que la raison l'emporte contre la passion que certains ont en ce moment. Et vous savez bien, comme moi, que ce qui a fait déraper, c'est la question du changement de position française sur le Sahara occidental, par le président Macron, et c'est à partir de là qu'il s'est enclenché, et voilà. Donc après, tous ces éléments-là, moi, j'ai entendu le président de la République algérienne faire une interview dans l'Opinion, journal L'Opinion français, et je crois qu'aujourd'hui, il est temps de sortir par l'eau cette situation-là, et moi, j'en appelle à une prise de parole
solennelle. Comment sortir de la crise,
du président de la République française, je crois qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole, et je l'invite, si je puis me permettre, en tant que parlementaire, je l'invite à redire en France et en Algérie, la nécessité d'avoir des relations apaisées entre les deux États et faire que l'accord d'Alger revienne le cadre entre les deux. Je crois qu'il est besoin de dire cela et je crois qu'il est important que les deux chefs d'État se parlent dorénavant.
Rachid Temal, est-ce que des relations apaisées sont possibles, partant du fait, vous le rappeliez, qu'Emmanuel Macron a reconnu la marocanité du Sahara occidental et qu'on sait que c'est un point d'extrême tension.
Je le dis à nos amis algériens, la France... Moi, je me suis exprimé à l'époque sur cette décision du président de la République, qui j'estimais qu'il ne pouvait pas la prendre seul, comme ça, changer 45 ans de position française, alors qu'il y a des résolutions des Nations Unies. Bon. Mais j'ai aussi entendu le président algérien, d'ailleurs, disant que, il prenait acte de ce qui s'est passé sur le Sahara occidental. Je crois que les deux États doivent être souverains et décident de leurs choses. Mais pour autant, je pense qu'il peut y avoir des discussions. Parce que moi, qui me suis rendu à Alger il y a quelques semaines, rencontrer des entrepreneurs français, franco-algériens ou algériens qui travaillent ensemble avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-algérienne, j'ai pu noter que dans le quotidien, ces relations-là existaient. Que les entreprises françaises qui sont en Algérie sont très contentes d'y être.
Les relations existent, le dialogue n'est pas rompu. Enfin, le dialogue entre sociétés civiles, notamment.
Parce que certains essayent de faire des relations avec l'Algérie une question de relations intérieures. Bon, je m'excuse, mais que le RN n'ait jamais digéré l'indépendance de l'Algérie, et d'ailleurs il a été écrit à Vidal Saint-Loès, c'est un sujet dans le débat politique français, que certains en boucle toute la journée les choses, etc. Bon, mais moi je pense que la France est une grande nation, et je rappelle que par exemple aussi nous avons des échanges avec l'Algérie, ou nous avions, on verra dans les prochaines semaines, sur la question du renseignement.
Le renseignement, le terrorisme, évidemment, très sécurité, important. Évidemment.
Sur la question des hydrocarbures, sur les questions économiques, sur la question culturelle.
Mais ça veut dire qu'il y a, Rachid Temal, si on va au bout de la menace annoncée hier, si les accords de 68 sont remis en cause, il y a un vrai risque.
Mais d'ailleurs, les accords de 68, je rappelle, c'est un accord entre deux États. Je ne pense pas qu'on puisse comme ça les jeter par-dessus bord en disant on verra ce qui se passera derrière. Il faut être à peu près sérieux.
L'apaisement est possible, Rachid Temal. Il nous reste 15 secondes.
Dans le même état, il y a eu la question des accords avec le Royaume-Uni. On n'a pas dit qu'on allait les casser en un mois. L'apaisement. Nous ayons au moins le même régime de deux côtés.
Oui. L'apaisement est possible, d'un mot, Rachid Temal.
Il le faut, c'est une nécessité pour la France et une nécessité, je crois, pour les relations internationales.
Merci à vous d'avoir été en ligne avec nous ce matin.
Le sénateur Rachid Temal, président du groupe d'amitié France-Algérie, au Sénat, avec Arnaud Pontus.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
Journée mondiale des maladies rares, les atteintes dermatologiques.
Demain,
émission Questions de femmes, l'anémie, la dépister, la prendre en charge.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce jeudi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Garbrandt.
Reportage en Italie à l'occasion de la COP16. La région des Marches au centre du pays a été pionnière dans la conservation de la biodiversité grâce à un réseau d'agriculteurs gardiens qui répertorie et protège des centaines d'espèces végétales et animales menacées d'extinction.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Existe-t-il une violence spécifiquement féminine ? C'est la question que pose l'écrivaine américaine Ivy Pocoda dans son nouveau roman Dios et Florida. Deux femmes sans foi ni loi qui, en sortant de prison, iront jusqu'au bout de leurs pulsions. Un livre qui dit aussi la violence des États-Unis aujourd'hui.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.